Chapitre 90. Catastrophe. Le lendemain soir à 10 heures, dans l'espérance de la bonne promesse faite par Regina, Pétrus était embusqué derrière le plus gros arbre du boulevard des Invalides, qui se trouva dans le voisinage de la petite porte de l'hôtel du maréchal de la Motte-Houdan. À 10h05, la porte s'ouvrit doucement et la vieille Nanon parut. Pétrus se glissa dans la grande allée de tilleuls. « eh bien !» s'écria la vieille nourrice. « Au rond-point, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Au rond-point ? Oh, vous n'irez pas jusque-là sans la rencontrer !» Et en effet, avant que Pétrus fût au fond de l'allée, son bras était enlacé au bras de Regina. « Oh, que vous êtes bonne, que vous êtes charmante, ma belle Regina, d'avoir tenu votre promesse, et que je vous remercie et que je vous aime !» s'écria le jeune homme. « Eh bien !» dit la jeune femme, « n'allez-vous point crier cela tout haut ?» Elle lui mit la main sur la bouche, main que Pétrus baisa avec fureur. « Oh mon Dieu, qu'avez-vous ce soir ?» fit Regina. « J'ai que je suis fou d'amour, Regina. J'ai que cette espérance de bonheur que vous m'avez donnée d'avoir un mois de liberté, de vous voir tous les 2 jours chez moi, de vous voir le soir ici. Pas tous les 2 jours. Le plus souvent possible, Regina. Voyons, aurez-vous le courage, quand mon bonheur sera entre vos mains, de vous en faire un jeu ?» « Eh mon Dieu, reprit la jeune femme, puisque votre bonheur, ami, c'est le mien. Eh bien, vous me demandiez ce que j'avais. Oui, j'ai que j'ai peur, j'ai que je tremble, tout en venant, tout en attendant à la porte. Oh, vous n'avez pas attendu longtemps. Non, et je vous en remercie de toute mon âme, Regina. J'ai qu'en venant, qu'en vous attendant, il me passait des frissons dans le cœur. Pauvre ami. » Et je me disais, « Oh, je vais la trouver en larmes, désespérée. Elle va me dire, « Pétrus, impossible, je vous ai reçu pour vous dire ce soir, je ne vous verrai pas demain. » Eh bien, vous le voyez, ami, au lieu d'être désespérée et en larmes, je suis joyeuse et souriante. Au lieu de vous dire, « Je ne vous verrai pas demain, je vous dis, demain, à midi précis, Pétrus, je serai chez vous. » Seulement, cette fois, je ne serai pas seul avec la petite abeille. Il y aura la tante. Mais, bah, la tante voit mal sans ses lunettes. Elle est si coquette qu'elle ne l'aimait que quand il y est absolument forcé. La tante s'endort de temps en temps, et quand elle dort, elle l'y voit encore moins que quand elle n'a pas de lunettes. Eh bien, nos yeux, nos mains, le frôlement de ma robe, mon inclination sur votre épaule pour étudier la ressemblance de plus près, tout cela, Pétrus, n'est-ce pas encore de la joie, du bonheur, de l'enivrement, comparé à la douleur de ne pas nous voir ? Oh, ne pas nous voir, Regina, ne prononcez pas ce mot-là, c'est le tourment incessant de mon cœur, qu'un moment puisse arriver où je ne vous verrai plus. » Regina haussa légèrement ses belles épaules. « Ne plus me voir, dit-elle, et quelle puissance au monde peut empêcher que je ne vous voie, cet homme, mais vous savez bien que je n'ai rien à craindre de lui. » le maréchal seul, s'il apprenait notre amour, mais qui le lui dira ? Personne. Et le lui dit-on, je nierai, je mentirai, je dirai que ce n'est pas vrai. Oh, ce serait bien dur, cependant, de dire que je ne vous aime pas, mon cher Pétrus, et je ne sais si j'en aurai le courage. Cher Regina, ainsi, rien n'est changé à l'ambassade ? Rien. Il part toujours à la fin de cette semaine. Il est aux Tuileries à 7 heures pour prendre ses dernières instructions. Ah, pourvu que cela tienne. Oh, cela tiendra, il paraît que c'est résolu un conseil de ministre. Oh, si ce n'était pas si ennuyeux de parler politique, je vous dirais la conversation que j'ai entendue entre mon père et M. Rapt, et cela vous rassurerait tout à fait. Oh, dites, dites, chère Regina, du moment où le politique peut avoir cette influence que je vous vois, la politique devient pour moi l'étude la plus intéressante à laquelle l'esprit humain puisse se livrer. Eh bien, l'on est en train, dans ce moment-ci, de faire un nouveau ministère. Ah, diable, voilà qui explique l'absence de mon ami Salvatore, dit gravement Pétrus, il y travaille. Plaît-il ? Rien, continuez, chère Regina. Ce ministère se compose de M. de Martignac, de M. Portalis, de M. de Caux et de M. Roy. On avait offert le ministère des Finances à M. de Marande, mais il a refusé. De M. de La Ferronnay et peut-être de mon père, mais mon père ne veut pas d'un ministère mixte, d'un ministère de transition, comme il l'appelle. Oh, Regina, Regina, la belle chose que la politique, quand c'est vous qui en parlez, continuez, je vous écoute. Monsieur de Chateaubriand, qui était en disgrâce depuis une lettre écrite par lui au roi 3 jours avant la fameuse revue de la garde nationale où l'on a crié à bas les ministres, monsieur de Chateaubriand, qui s'était retiré à Rome au milieu des ruines, va y recevoir ses lettres d'ambassadeur. Enfin, il se fait, comme on dit, un revirement de politique. Et vous, chère Regina, qu'êtes-vous nommée dans tout cela? Moi, je suis nommée gardienne de l'hôtel du boulevard des Invalides, tandis que mon père va probablement être nommé gouverneur du château et que M. Rapt est nommé envoyé extraordinaire près Sa Majesté Nicolas Ier. Voilà justement ce que je crains, c'est que l'ambassade n'échoue. Au contraire, elle est sûre. On veut se détacher de l'alliance anglaise et se rapprocher de l'alliance russe. Le maréchal y pousse de tout son pouvoir. On y gagnerait les provinces du Rhin et l'on dédommagerait la Prusse aux dépens de l'Angleterre. Ah, est-ce clair tout cela? Vous m'en voyez tout étourdi. Comment tout cela peut-il contenir dans cette charmante tête? Mon Dieu! Et si vous ne me laissez baiser votre front, ma belle Regina, je croirais qu'il y est venu des rides. » Regina renversa sa tête en arrière pour que Petrus pût s'assurer que, depuis la veille, elle n'avait pas vieilli de 50 ans. Petrus baisa non seulement ce beau front de nacre, mais aussi ses yeux. Quelque chose de pareil à un gémissement s'échappa de la bouche du jeune homme. Regina s'éloigna vivement. Elle avait senti frémir sur ses lèvres l'haleine de Petrus. Petrus la regarda avec un geste suppliant et elle revint elle-même se suspendre à son cou. « Ainsi donc, murmura Petrus, à la fin de la semaine il partira et vous serez libre. »« Oui, mon ami. Oh, qu'il y a loin d'ici, à la fin de la semaine. Comme d'ici là, entre les jours, entre les nuits, entre les heures, entre les minutes, comme il y a place pour un malheur. » Et le jeune homme qu'on eût dit accablé d'un pressentiment terrible se laissa aller sur un banc de gazon, attirant Regina à ses côtés. Le groupe charmant s'affaissa mollement sur lui-même, comme si ses deux corps n'en eussent formé qu'un seul. La tête de Regina se trouva sur l'épaule de Petrus. Elle voulut faire un mouvement pour la retirer. « Oh, Regina !» murmura Petrus, et la tête retomba. Ils étaient si bien là tous les deux que le temps s'écoula sans que ni l'un ni l'autre s'aperçussent de sa fuite. Tout à coup, le roulement d'une voiture se fit entendre. Regina releva la tête et prêta l'oreille. On entendit la voix du cocher qui criait « La porte !» La grille s'ouvrit. Le roulement se rapprocha. La voiture entrait dans la cour. « Les voilà, » dit Regina. « Il faut que j'aille au-devant de mon père. À demain, cher Petrus !» « Oh, mon Dieu !» murmura Petrus, « que je voudrais pouvoir rester ici jusqu'à demain. »« Mais qu'avez-vous donc ? Je ne sais, je sens un malheur. »« Enfant !» Et Regina tendit une seconde fois son front à Petrus. Petrus l'effleura des lèvres et la jeune femme disparut dans les allées sombres en jetant comme une consolation ces deux mots à celui qu'elle abandonnait. « À demain !» « À demain !» murmura tristement Petrus, comme si, au lieu d'être une promesse d'amour, ce mot était une menace de malheur. 5 minutes après, Petrus entendit des pas qui venaient à lui et une voix qui l'appelait doucement. C'étaient les pas et la voix de Nanon. « La petite porte est ouverte, » dit-elle. « Oui, oui, ma bonne Nanon, » répondit Petrus en faisant un effort pour s'arracher de sa place. Et tout en envoyant son cœur, sa vie, son âme à Regina dans un baiser, il regagna cette petite porte et sortit sans être vu. Sa voiture l'attendait à 100 pas de là. En rentrant, il demanda à son domestique des nouvelles du capitaine. Le capitaine était venu vers les 10 heures, avait demandé des nouvelles de Petrus et, ayant appris qu'il était sorti, l'avait attendu plus d'une heure dans l'atelier. À 11h30, voyant que Petrus ne revenait pas, il était rentré dans sa chambre. Petrus, tourmenté par une vague inquiétude, descendit et frappa à sa porte. On ne répondit pas. Petrus chercha la clé pour ouvrir. La clé n'était point sur la porte. Il frappa de nouveau, même silence. Ou le capitaine dormait, ou il était sorti. Petrus remonta chez lui. Il se promena longtemps de son atelier dans sa chambre. Le capitaine avait laissé sa trace dans l'atelier et la lampe brûlait. Un volume de Malebranche était tout ouvert sur la table. Pétrus se décida à rentrer dans sa chambre. Il étouffait. Il ouvrit la fenêtre, respira un instant l'air déjà froid de la nuit. Cette fraîcheur nocturne le calma un peu. Enfin, il se coucha. Le sommeil fut long à venir et, une fois venu, intermittent, fiévreux, agité. Vers 5 heures du matin, cependant, la fatigue l'emporta. À 7 heures du matin, on frappa à la porte. Pétrus vit entrer son domestique. Il se souleva vivement. « Qu'y a-t-il, Jean ? » demanda-t-il. « Une dame voilée demande à parler à monsieur, » répondit celui-ci tout effaré. « Une dame voilée, à moi ? » ?»« Une dame voilée, à vous ?»« La connais-tu ? » demanda Pétrus. « Oh, monsieur, elle n'a pas dit son nom, mais... »« Mais quoi ? Je crois bien... »« Que crois-tu ? Voyons, achève !»« Je crois bien que c'est madame la princesse. »« Tu crois que c'est Regina ?» J'en suis sûr même. Ah, Regina, s'écria Pétrus en sautant à bas de son lit et en passant rapidement un pantalon à pied et sa robe de chambre. Regina, ici, à 7 heures, il faut qu'il soit arrivé. Quelque catastrophe. Oh, mes pressentiments, mes pressentiments. Pétrus s'était habillé à la hâte. Faites monter, dit-il, j'attends dans l'escalier. Le domestique descendit. « mon Dieu !» murmurait Pétrus, presque fou. « Vous m'aviez envoyé le pressentiment d'un malheur, mais que put-il être arrivé ?» En ce moment, la femme voilée parut sur le seuil. Le domestique la suivait. Il ne s'était pas trompé. À travers le voile, Pétrus reconnut Regina. « Sortez !» dit-il au domestique. Jean obéit et ferma la porte sur celle qu'il venait d'introduire. « Regina !» s'écria Pétrus en s'élançant vers la jeune femme qui lui paraissait chanceler. « Regina, est-ce bien vous ?» Regina, c'était bien elle, souleva son voile et dit « C'est moi, Pétrus !» Pétrus recula de 2 pas en voyant le masque de marbre, le visage pâle jusqu'à la lividité de la comtesse Rapt. Qu'était-il donc arrivé ?